Radio Okapi. Le journal grâce à Mzati.
À la une, début ce lundi sur toute l'étendue du territoire national des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025. Dans la province de l'Ituri, les autorités scolaires rassurent quant à la sécurisation de ces épreuves, même dans les zones où la situation sécuritaire demeure préoccupante. Les finalistes ont été préparés moralement pour passer en toute quiétude ces épreuves, affirment ses responsables. Des détails dans ce journal. L'actualité, c'est aussi l'ouverture vendredi dernier du procès contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, par la haute cour militaire. Dans ce journal, Jeff Ngoy nous donne les grandes lignes des griefs à charge du sénateur à vie, considéré par la justice comme l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC. La mission des Nations Unies, MONUSCO, procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés, composés notamment des véhicules et appareils électroménagers dans les villes de Kinshasa, Beni et Bounia. Nous en parlons avec notre invité Joseph Moswala Makambo de la section d'approvisionnement de la MONUSCO qui explique les modalités de cette opération. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'aller plus loin, sachez que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO condamne l'attaque survenue dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025 à Komanda, à environ 60 km au sud-ouest de Bounia, dans les territoires du Rumwanituri. Selon des informations officielles, cette attaque des éléments du groupe armé Force démocratique alliée ADF a causé la mort d'au moins 43 civils, dont 19 femmes et 9 enfants. La majorité des victimes ont été tuées à l'arme blanche dans un lieu de culte. Plusieurs personnes ont été enlevées. Dans son communiqué de presse parvenu ce matin à Radio Okapi, la MONUSCO exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête sur cette tuerie et à traduire les auteurs en justice. La mission onusienne réitère également l'appel du secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers à déposer les armes sans condition et à retourner dans leur pays d'origine. En coordination avec les autorités locales, la mission dit avoir apporté son soutien aux opérations de prise en charge des victimes, notamment à travers l'organisation des inhumations et la fourniture des soins médicaux aux blessés. Parallèlement, la MONUSCO a intensifié ses efforts de sécurisation autour des commandes en augmentant la fréquence de ses patrouilles dans la zone, précise le communiqué. Restons à Ituri pour ouvrir le chapitre concernant les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État qui débute ce lundi 28 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette province, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces épreuves, même dans les zones où la situation sécuritaire reste très préoccupante. Affirmation du directeur provincial de l'éducation nationale Ituri 1. Il précise qu'un seul centre situé à Djougou a été délocalisé vers Bounia. Dans d'autres localités comme Komanda, les finalistes sont sensibilisés et préparés moralement afin d'aborder ces épreuves dans les meilleures conditions. À Bounia, Isaac Raymond.
Selon les proverbes d'Yvon Mouké, la province éducationnelle Ituri 1 attend près de 18 900 finalistes répartis dans 55 centres d'examen, tous jugés opérationnels. Les malles contenant les items ont été déployés dans l'ensemble des centres, y compris ceux se trouvant dans des zones à sécurité volatile. Cependant, en raison d'une attaque de la milice Codeco survenue lundi dernier à Nizi et ayant causé la mort d'une dizaine de personnes, le centre d'examen local a été relocalisé à Bounia. De nombreux finalistes originaires de Nizi, Igabari et l'OPA s'y sont réfugiés pour pouvoir passer les épreuves. À Komanda, malgré une attaque la veille des ADF, les centres restent opérationnels. Les autorités scolaires affirment que le gouvernement a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour protéger la population. Les chefs des centres s'efforcent également de remonter le moral des élèves afin de maximiser leurs chances de réussite. Toutefois, certaines inquiétudes persistent, notamment à ce qui concerne la déperdition scolaire due au déplacement des populations ainsi que les difficultés d'accès pour les élèves vivant dans des zones à risque où la circulation reste limitée à raison de l'insécurité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et à Beni au nord Kivu, la police nationale congolaise rassure quant à la sécurisation de tous les centres de passation de l'examen d'État. Lors d'un point de presse tenu samedi, le chargé de communication de la police ville de Beni a toutefois mis en garde les élèves qui se livreraient à des actes troublant l'ordre public durant cette période. Nasson Mourara est au micro de Marc et Marofimbo.
La police a déjà pris des dispositions pour utiliser les épreuves avec les centres qui ont été placés par l'autorité de tutelle pour que ces examens se déroulent dans les bons. Il y a des centres où les gens peuvent dire est-ce que la sécurité est garantie. Et donc, avec les forces et les unités territoriales de la police, nous sommes déjà déterminés pour ces épreuves. Nous rassurons ici aux élèves finalistes que les épreuves seront belles. Les épreuves hors session se sont déroulées sans incident. La police souhaite que pour cette session ordinaire, que ces épreuves se déroulent sans problème et sans incident. C'est par cette occasion que nous évitons tous ceux qui se disent étudiants dans la ville et qui œuvrent toujours dans la trouble de l'ordre public, surtout dans les centres de passation des examens. Nous les appelons d'abord aux sciences et nous leur informons qu'une fois que ces troubles sont organisés, ils seront toujours traqués par là. C'est le message. Ils sont en train de me capter à travers ces biens. Ils doivent laisser calmement les élèves passer les examens.
Toujours en Nord Kivu avec cette autre assurance, les candidats finalistes de la province éducationnelle Nord Kivu 3 dans les territoires d'Imasisi et de Rutshuru vont passer leurs épreuves en toute quiétude. C'est ce qu'affirme l'intersyndicale des enseignants dans ces deux territoires qui lève la mesure de boycotter les épreuves à cause du non-paiement des salaires des enseignants depuis 6 mois. Selon le porte-parole de l'intersyndicale, une promesse ferme est faite par la Caritas, qui est l'agent payeur, de reprendre la paie des enseignants à partir de cette semaine. Voilà qui motive leur décision d'Ibandu Bauma exaucée. Il réitère le déploiement des inspecteurs et enseignants pour la supervision et la surveillance de ces épreuves. On écoute Bandu Bauma.
Comme le dévouement et la vocation nous obligent, voilà pourquoi cette mesure a été levée. Oui, nous avons déjà un compromis. La Caritas nous a appelés, nous confirmant ainsi que l'IFOD pourra alimenter leur compte pour qu'ils puissent nous servir. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu d'autre choix et surtout que le patriotisme nous oblige de le faire. Et les inspecteurs et tous les enseignants des écoles primaires dans les territoires de Masisi et Rutshuru sont des gens dans leurs centres des examens d'État respectifs. Donc, nous pouvons dire bonne chance à tous les finalistes du territoire de Masisi et de Rutshuru, comme ils nous ont donné cette promesse que cela soit réalisé, que ça ne soit pas encore comme ils ont toujours fait. Ils donnent une promesse et cela ne sera pas tenu. Et donc, nous recommandons au gouvernement de s'impliquer, d'obliger l'IFOD pour qu'il puisse virer l'argent dans les comptes de la Caritas. Parce que ces derniers ont toujours évoqué des raisons comme quoi c'est l'IFOD qui bloque la paye.
Signalons que certains centres sont délocalisés à cause de l'instabilité sécuritaire dans le Masisi. C'est notamment celui des Bukombo vers Nyabiondo Centre. Justice, nous l'avons dit dans les titres, la haute cour militaire a ouvert vendredi 25 juillet le procès contre Joseph Kabila. À cette audience introductive, l'auditeur général des forces armées de la RDC a exposé une dizaine d'inculpations retenues contre l'ancien président de la République et sénateur à vie, fait prévu et puni par le code pénal congolais. Le prévenu étant absent de Kinshasa, il est jugé par contumace. Seuls les avocats de la partie civile de la République participent au procès. Ils ont sollicité une remise pour le 31 juillet prochain afin de compulser les pièces du dossier. Le compte-rendu de Jeff Ngai.
À l'entame du procès, le greffier fait savoir que plusieurs tentatives pour atteindre le sénateur à vie à sa résidence de Kinshasa en vue de lui signifier le mandat de sa comparution ont échoué. Il ressort de l'acte d'accusation plusieurs charges contre Joseph Kabila, notamment en tant que l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire AFC, avec pour branche armée M23 appuyée par RDF et les mercenaires de diverses nationalités dans la province du Nord Kivu, coauteurs pour avoir commis par l'intermédiaire de Corneille Nanga, coordonnateur du dit mouvement terroriste, l'homicide intentionnel de 31 personnes, une tentative d'homicide intentionnel sur 21 autres, l'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025 à la suite des attaques dirigées. Dans la province du Sud Kivu, il est poursuivi en tant que co-auteur du chef des crimes de guerre dont les viols, les tortures, l'homicide intentionnel par balle, l'apologie des actes de terrorisme, déportation, participation à un mouvement insurrectionnel, autant de charges qui pèsent sur Kabila.
Merci à vous, Jeff Ngoy. Entre-temps, les forces armées de la RDC réfutent les allégations du groupe armé MRDP Turaneo qui opère dans les hauts plateaux des Fizi au Sud Kivu, alertant sur l'infiltration des prétendus FDLR formés au Burundi pour commettre des massacres à grande échelle et ciblés contre les populations Banyamulenge. Dans un communiqué daté du 26 juillet 2025 et dont une copie est parvenue à Radio Okapi, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, juge ces allégations non fondées. Juste Mister Bilanda a lu pour nous ces communiqués.
Pour le porte-parole de l'armée qui a signé ces communiqués, ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles constituent une tentative désespérée d'aliéner l'opinion nationale et internationale et de saboter les efforts entrepris dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Par contre, selon les communiqués, les FARDC détiennent des informations recoupées et vérifiées sur les projets planifiés des massacres des populations Banyamulenge de Minembwe au Sud Kivu par les groupes armés Turaneo en complicité avec Red Tabara, actif lui aussi dans la région. La planification de ces programmes poursuit ses communiqués, a pour but de créer un tollé et en imputer la responsabilité au gouvernement congolais et burundais à travers leurs forces de défense et de sécurité. Face à cette situation, les FRDC dénoncent les appétits criminels de ces forces du mal et leur tendance à torpiller les efforts entrepris pour les retours de la paix dans l'est de la RDC, conclut ses communiqués.
Revenons un instant à Ituri pour parler de cette nouvelle vague des déplacés observée dans la ville de Bunia. En effet, plus de 20 000 nouveaux déplacés ont rejoint les sites de fortune au chef-lieu de la province et dans d'autres entités voisines. C'est l'association des déplacés et victimes des guerres de l'Ituri qui a révélé ces chiffres jeudi dernier lors d'un point de presse à Bunia. Ces mouvements massifs sont liés à la recrudescence de l'insécurité dans le territoire des Djougou, marqué par l'activisme des groupes armés et les récentes opérations militaires des FRDC. Le point avec Jean-Claude Loki Dile.
Ces déplacés, venus notamment de Nizi, Lopa et Central-Solenyama, arrivent dans des conditions très précaires. Les anciens sites sont déjà saturés, les abris délabrés et les installations hygiéniques quasiment inexistantes. Olivier Carba, le chargé des communications de l'association des déplacés et victimes de guerre de l'Ituri.
Tous les sites des déplacés actuellement sont débordés. Les nouveaux venus ne savent où passer leur nuit car il n'y a plus d'espace pour construire des abris. Nous avons beaucoup de défis à relever dans des sites de déplacés. Quelqu'un manque des toilettes parce que les toilettes là sont bouchées. Manque de vivres, manque d'abris et les soins de santé.
À Bunia, le maire signale que plus de 2400 déplacés supplémentaires vivent chez des familles d'accueil, elles-mêmes en situation de grande précarité. Un appel pressant est lancé aux autorités et partenaires humanitaires pour une réponse rapide à cette crise humanitaire grandissante. Olivier Carba.
Si les ONG et le gouvernement n'interviennent pas, sans vous mentir, nous risquons de vivre d'autres conséquences néfastes comme les maladies, les cas de mort suite à ces débordements.
D'autres déplacés vivant sur des sites qui n'ont pu atteindre Bunia à cause de diverses raisons passent la nuit en brousse, craignant des attaques des hommes armés. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Contrairement à la province de l'Ituri, dans le Tanganyika, les populations qui ont fui leur village dans le territoire des Moba à la suite des incursions des miliciens Bakatakatanga et des Toa commencent à retourner petit à petit dans leur milieu d'origine. Des sources locales soulignent que ces retours sont consécutifs au rétablissement de la paix grâce à la présence dans la zone des éléments des FRDC. C'est ce que nous dit Paul Mounanga.
Au mois de mars et avril dernier, les habitants de plusieurs villages situés dans les groupements Kasenganganye, Kamena et Mupanga à l'ouest du territoire de Moba, à la suite des attaques des miliciens Bakatakatanga et des Toa, commencent à regagner leur milieu d'origine, signalent certaines sources à Moba. Quelques retournés s'expriment. Il y avait une grande insécurité. Le gouvernement nous a aidés en nous envoyant des militaires. Et depuis qu'ils sont ici, nous constatons que la situation sécuritaire s'est améliorée. Les gens retournent petit à petit. Ici, c'est le village Kisala Kabobwe. Il y avait une grande désolation lorsque les Toa nous ont attaqués. Nous avions tous fui en brousse. Ils ont volé tous nos biens. Nous sommes allés voir les militaires. Des FRDC à Kasenganganye. Ils sont venus et nous ont demandé de retourner. Ils nous ont promis de nous sécuriser. C'est ainsi qu'il y a retour de la paix dans le village. Nous demandons au gouvernement de nous assister avec les cash, les vivres et les non-vivres. Rappelons que les incursions de ces miliciens dans les villages ont été à la base des incendies de plusieurs maisons et du pillage des biens des villageois. Cette situation a provoqué des déplacements massifs des populations. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Parlons santé. L'hôpital général des références de Maluku ici à Kinshasa dit avoir enregistré déjà 95 cas de choléra dont 13 décès depuis le mois de mai. Selon son médecin directeur, la plupart des malades viennent des îles. Docteur Apollinaire Bissanga plaide pour plus de surveillance au niveau des portes d'entrée des voyageurs venant par voie fluviale afin de limiter la propagation de cette maladie. Docteur Apollinaire Bissanga demande aussi une meilleure prise en charge alimentaire des prestataires engagés dans cette lutte dans son secteur.
Actualité internationale.
Avec 31 millions de personnes, dont 17 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, les États du nord-est du Nigeria sont touchés de plein fouet par une insécurité alimentaire qui nourrit le recrutement des groupes djihadistes locaux et qui pourrait déboucher sur une déstabilisation de toute la région.
L'invité.
La MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés composés des véhicules, appareils électroménagers, équipements de communication et électronique, pompes et conteneurs. Selon Joseph Moussouala, responsable à la section d'approvisionnement de la MONUSCO, trois villes sont retenues pour cette vente. Il s'agit de Kinshasa le 5 août prochain, Beni et Bunia le 12 et le 13 août. La présence physique de tous les intéressés est obligatoire les jours de la souscription, martèle-t-il. Suivez toutes les modalités de cette opération avec lui, Joseph Moussouala Makambo, dans cet entretien avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur Joseph Moussouala, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La MONUSCO prévoit une vente aux enchères de plusieurs lots. Pouvez-vous nous préciser de quel article il s'agit exactement?
Merci pour la question. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a prévu faire la vente aux enchères principalement dans trois villes. Il s'agit de Beni, Bunia et Kinshasa. Et là, les différents lots comprennent les matériels du genre groupes électrogènes, véhicules et puis les équipements électroniques. Et cette vente dans ces différentes villes sont prévues dans des dates telles que Kinshasa, c'est déjà pour le 5 août, et Beni et Bunia, il y a deux jours, du 12 au 13. Pourquoi deux jours? Parce que la plupart des clients qui vont acheter à Beni vont aussi à Bunia. Donc c'est pour permettre que celui qui était à Bunia puisse aussi se déplacer le jour suivant à Beni et vice versa. Mais pour Kinshasa, c'est seulement un seul jour.
Oui, et parlons maintenant du déroulement de la vente. Comment cette vente va-t-elle se passer concrètement et que doivent faire les personnes intéressées pour participer aux enchères?
Ok, comme le programme est donné, il est demandé à tous les enchérisseurs qui veulent bien participer à notre vente, d'abord de suivre le communiqué parce que ça indique les endroits précis où la vente aura lieu. Comme ici à Kinshasa, on sera à Kingabwa, à notre site qu'on appelle Incal. C'est là qu'il y a l'entrepôt de PDU où tout le matériel qui sont mis en vente sont exposés. Et là, le jour de la visite, les gens vont arriver sur place pour visualiser le matériel qui est mis en vente. Et à la même occasion, il y aura une session de briefing, donc une session d'information, où on va d'abord remettre les documents qui contient la liste de tous les biens qui sont mis en vente, et on va donner des explications aux acheteurs pour les aider à mieux comprendre et à mieux présenter leur soumission pour qu'ils puissent être acceptés et éventuellement gagner des lots s'ils sont les meilleurs offrants.
Certains de ces lots incluent les véhicules de la MONUSCO qui seront généralement exonérés des droits de douane. Quelles sont les démarches ou conditions particulières à remplir pour ceux qui souhaitent acheter ces véhicules?
Comme vous l'avez dit, que la MONUSCO jouit de certaines exonérations par rapport à l'importation de ces biens. Mais maintenant que ce sont les privés qui vont s'en approprier, eux, ils sont appelés à remplir les droits des douanes. C'est-à-dire, ceux qui auront gagné des lots, un document leur sera remis. Et sur base de ce document, ils vont se rendre au bureau de l'État, précisément à la DGDA, qui a déjà la liste de ces biens que la MONUSCO est en train de mettre en vente. Parce que, avant de commencer le processus, nous informons le gouvernement congolais de cette activité. Alors, quand ceux qui auront gagné recevra la notification qu'il a gagné un ou deux ou trois lots, maintenant, sur base de ce document, il va se présenter au bureau de la DGDA et là, il va remplir les formalités douanières. Et là, la MONUSCO a déjà pris des arrangements avec la douane pour leur faciliter cette tâche.
Oui, d'aucuns craignent que la douane peut être exorbitante, hein, connaissant le Congo, ça peut être supérieur par rapport à la valeur du véhicule. Est-ce que la MONUSCO a pris des précautions pour essayer de faciliter la tâche à ces souscripteurs-là?
Sauf changement, mais la MONUSCO, à l'époque, était confrontée à ce genre de situation. Alors, les négociations avaient été faites entre la mission et le gouvernement congolais pour faciliter justement la prise en compte des prix de vente par, comme ça se faisait dans le temps, on prenait le prix comme si le matériel venait d'arriver. Mais maintenant, là, on tient compte du prix d'achat que l'enchérisseur a acheté ici, localement au Congo.
Ok, dites-nous alors, monsieur Joseph, une question que beaucoup se posent. Le personnel des Nations Unies, y compris celui de la MONUSCO, peut-il participer à cette vente aux enchères?
Et je crois bien que cette question avait été clarifiée lors de notre vente passé. Dans le passé, c'était une interdiction, mais depuis, je crois, 2 ou 3 ans, la mission a maintenant ouvert la porte, comme tout autre enchérisseur. Donc même les staffs des Nations Unies, toutes agences confondues, sont autorisés à participer. Néanmoins, à quelques exceptions près, il y a des gens qui sont impliqués dans la vente, comme moi et mon équipe. Donc comme je fais partie de ceux qui traitent les dossiers de vente, nous ne sommes pas autorisés de participer. Si nous voulons le faire, alors nous devons sortir de l'équipe, sinon ça va faire un conflit d'intérêts.
Maintenant que les agents sont autorisés à participer, y a-t-il des conditions spéciales ou des tarifs préférentiels qui leur sont réservés?
Malheureusement non, parce qu'on ne va pas faire deux poids deux mesures. J'aimerais vous rappeler qu'il y a même eu une vente exclusivement réservée aux staffs des Nations Unies. Et là, il n'y avait que des staffs. Maintenant qu'ici c'est ouvert au grand public, ben, tout le monde vient comme le grand public.
Monsieur Joseph Monsoala de Procurement, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était avec Jordan Blaise Shindani Kambala. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jude Mister Bilandang Kumar et Jean Gandukabongo. La mise en onde de Pierre Diassinois. Merci pour votre confiance.